Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, cette émission est diffusée en hommage à Marguerite Arles, professeure émérite de grec à l'Université Paris-Sorbonne, qui nous a quittés le 31 août dernier à l'âge de 101 ans. Marguerite Arles est la personne qui a su susciter un vrai intérêt au sein de la Sorbonne et plus généralement dans le monde littéraire universitaire français et international pour la traduction grecque de la Bible que l'on appelle la Septante, ainsi que pour les textes des pères grecs de l'Église, lecteurs et commentateurs eux-mêmes de cette traduction. Comme prolongement naturel de ses recherches, elle a lancé une grande entreprise de traduction et commentaires en français de la Septante sous le titre « La Bible d'Alexandrie », œuvre magistrale continuée jusqu'à nos jours par ses nombreux disciples, chercheurs et universitaires. Notre émission du 5 juillet 2009, que nous vous proposons en réécoute aujourd'hui, était intitulée « La Septante, l'Ancien Testament pour les Pères de l'Église », titre qu'elle avait elle-même choisi. Voici donc Marguerite Arles qui répondait à notre première question, comment définir la Septante ?
Oui, c'est une œuvre magnifique, immense, qui a été accomplie il y a longtemps, 3 siècles avant Jésus-Christ a commencé à Alexandrie. Nous le devons au génie de quelques juifs érudits qui ont eu l'audace de faire passer tous les livres bibliques écrits en hébreu dans la langue de l'époque qui était le grec, une langue magnifique qu'ils ont très bien su utiliser avec intelligence et finesse, et ils ont donné une version grecque complète de tous les livres contenus dans ce que l'on appelle le canon biblique. Bien entendu, il y a quelques différences avec le modèle hébreu, mais enfin nous insisterons surtout sur la valeur de cette version qui a été faite livre par livre, très soigneusement. On dit qu'ils se mettaient à plusieurs pour travailler, et ça a été reçu avec enthousiasme par les juifs qui étaient de culture grecque, qui étaient heureux de voir que c'était la langue universelle à cette époque qui était choisie pour dire la parole de Dieu, mais aussi avec beaucoup de mauvaise humeur par les rabbins qui tenaient à la seule vérité de leur texte en hébreu et qui ont déclaré jour de deuil, jour de traduction, alors que d'autres disaient nous faisons une fête pour l'anniversaire de la traduction. Vous voyez, cette traduction de la Bible dans la langue grecque de l'époque alexandrine est un événement historique considérable, puisqu'il a fait sortir de cette espèce d'étroit domaine qui était celui de la langue hébraïque, qui était peu connue en dehors des juifs, qui a fait sortir cette œuvre, toute la Bible, de cette fermeture, la ouverte sur le monde hellénistique.
Donc, la Septante, une traduction.
Oui.
D'un texte très ancien,
oui,
d'une longue tradition, et cette traduction est en grec. Dans quelle langue, dans quel état de grec, si vous voulez,
oui,
est-elle traduite ?
Il ne faut pas mépriser la langue de l'époque tardive, puisque c'est tardif par rapport au 5e siècle avant Jésus-Christ, par rapport à, bien entendu, à Homère, Hésiode, Hérodote, et même à Platon, et tous ces... C'est une langue qui est encore le grec classique, avec une évolution normale dans toutes les langues, mais peu de choses, bien sûr, quelques petites modifications morphologiques ou syntaxiques, mais c'est toujours le grec, la très belle langue grecque, une langue admirable que les Juifs connaissaient, qu'ils admiraient, qu'ils appelaient la plus belle de toutes les langues, la langue de Japhet, un des 3 fils de Noé. C'était une langue, c'est une langue, toujours, la même langue qui évolue à travers les siècles, mais qui garde les caractères de clarté, de richesse lexicale, de souplesse syntaxique, de grande valeur stylistique, une langue que l'on peut aimer beaucoup, et qui surtout était à cette époque-là la langue du monde méditerranéen tout entier, une langue pour tout le bassin méditerranéen, c'était la langue du commerce, de l'industrie, des militaires, des voyageurs, des enseignants, donc c'était la langue qui permettait de répandre les œuvres littéraires largement.
Vous dites ça en tant que professeur de grec.
Oui.
Et je sais que vous aimez beaucoup cette langue, vous le montrez aussi. Donc, la Septante a également une grande valeur pour sa réception, si je puis dire. Elle est faite par des juifs, elle s'adresse à des juifs, mais oui, elle va devenir quelque chose de très fort dans le monde chrétien.
Oui, surtout par le Nouveau Testament. À l'époque où Jésus vivait, on parlait araméen surtout. Nous ne savons pas, lui, très bien dans quelle langue il parlait ou il écrivait, s'il écrivait, ce que je ne sais pas. Mais la Septante était le texte grec de la Bible hébraïque pour les premiers chrétiens, et ceux qui ont écrit les évangiles ou les épîtres, enfin le corpus du Nouveau Testament, s'est fait dans la même langue que la Septante. On retrouve le même vocabulaire religieux. Les traducteurs avaient trouvé pour exprimer la prière hébraïque des équivalents grecs, et de même pour les grandes notions de Dieu unique ou d'alliance. Et donc le Nouveau Testament a écrit le message de Jésus dans la même langue que la Septante. Donc il y a une continuité parfaite, littéraire, linguistique, entre les deux. Bien entendu, nous, professeurs de grec, nous montrons des différences. Mais enfin, grosso modo, c'est toujours le même grec. Un grec très riche et un grec qui a entraîné une interprétation, une lecture du moins de la Septante à la lumière du Christ. Et dans le Nouveau Testament, Paul notamment a dit « Tout ce qui est dit pour le peuple de Dieu dans la Bible, nous l'entendons comme nous parlant à nous ». C'est-à-dire, et donc c'est devenu un texte lu par des chrétiens, compris par des chrétiens, fournissant à des chrétiens des symboles, des prières, des affirmations théologiques, qui devenaient christocentriques, c'est-à-dire centrés sur le Christ, c'est-à-dire tout parlait dans la Septante, alors que ça parlait du Messie de loin, ça parlait du Christ, après l'interprétation donnée par les pères, montrant que la Septante, l'Ancien Testament, avait montré des signes, des types de ce qui est devenu réalité après la vie de Jésus et la création de l'Église, mettons, qui remplaçait le peuple. C'est un gros problème, ce tournant opéré par le Nouveau Testament dans la même langue que la Septante et qui entraîne une lecture chrétienne, c'est-à-dire adaptée au Christ, centrée sur le Christ.
Donc la Septante devient l'Ancien Testament que lisent les chrétiens.
Exactement. C'est le texte de l'Ancien Testament, pour un gros pourcentage des citations, qui est le texte des citations dans le Nouveau Testament, et surtout pour les pères de l'Église, qui dès le IIe siècle, avec les pères apologistes, Justin, Irénée, puis avec les grands théologiens du IIIe siècle, comme Clément, surtout Origène, et puis le IVe et Ve siècle, ont forgé peu à peu la théologie chrétienne à l'aide des conciles et de tout ce qui a affiné les affirmations primitives de la foi, et tout cela à l'aide du support de l'Ancien Testament. Vraiment, c'est la Septante qui a été l'Ancien Testament des pères de l'Église pour la formation de leur théologie, de la foi proprement dans le Dieu qui dirige l'histoire, dans l'interprétation de l'histoire du peuple d'Israël comme modèle de l'histoire du salut. Un Dieu qui fait alliance avec son peuple, il ne faut pas rompre l'alliance, il ne faut pas lui être infidèle et le salut arrivera. Donc c'est vraiment toute la théologie des pères qui s'est formée en citant des phrases de l'Ancien Testament lues en grec et en passant par le Nouveau Testament naturellement et en ajoutant peu à peu l'expérience spirituelle et théologique des pères grecs eux-mêmes.
Y a-t-il de vraies différences entre le texte grec de la Septante et le texte hébraïque? Le texte qui fait référence chez les Juifs d'abord, et puis également certaines branches des églises chrétiennes qui se basent davantage pour leur tradition sur le texte juif.
C'est un grand problème. Il est inévitable qu'il y ait des différences entre un texte original et la version que l'on en donne dans une autre langue. Donc, inévitablement, nous allons pouvoir parler de ces quelques différences. Mais il faut d'abord dire que, en grec, à côté des livres traduits de l'hébreu, les Juifs ont rassemblé une littérature, d'autres livres que nous considérons comme bibliques dans la culture ancienne, qui n'ont pas été reçus dans le canon hébreu, mais qui ont été conservés en grec. Donc la Septante est riche de quelques suppléments, de quelques livres, de quelques parties de livres qui n'ont pas été conservés en hébreu, ou bien qui ont été écrits directement en grec. Donc la première différence entre la Septante et la Bible hébraïque, c'est le nombre de livres, c'est ce qu'on appelle le canon. et dans toutes les versions françaises de la Bible hébraïque, on a l'honnêteté de mettre en colonne parallèle la liste des livres hébreux et la liste des livres qui sont dans la Septante. Ça, c'est une différence bien connue et qui nous vaut quelques trésors en grec qui ont disparu de la mémoire juive, mais enfin, qui existent quand même, et qui sont des livres juifs. Ensuite, il y a les petites différences qu'étudient les savants. Il y a des volumes et des volumes entiers qui étudient, verset par verset, ce qu'il y a en plus, ce qu'il y a en moins par rapport au texte hébreu. C'est quelquefois très peu de choses. Quelquefois, ce sont des suppressions dans la Septante d'une partie de verset, ou d'un verset entier, ou de quelques versets entiers. En revanche, on trouve aussi dans la Septante, on ne sait pas trop pourquoi, quelques additions qui ont pour but souvent d'éclaircir le texte hébreu, dont il faut dire, avant de parler des différences entre l'hébreu et le grec, que c'est un hébreu très difficile souvent. Il y a des milliers, je ne me rappelle plus combien de cas, il y a des milliers de cas où les biblistes ne savent pas traduire le texte hébreu et s'appuient sur la Septante comme ayant compris, quelquefois mieux que les savants actuels, ce que voulait dire l'hébreu. Donc il y a dans la Septante des éclaircissements par rapport à l'hébreu, ce que nous appelons, nous, philologues, des leçons facilitantes, la lecture, là où l'hébreu n'est pas parfaitement facile à comprendre. Donc il y a ces écarts-là. Mais ce qui m'intéresse en tant que spécialiste des Pères de l'Église, ce sont les écarts significatifs. Des écarts qui apportent un sens nouveau. Si vous voulez, je ne sais pas si nous avons le temps d'en donner un exemple, mais on pourrait citer un exemple dans Isaïe chapitre 26, autant que je me rappelle, versets 17-18, où l'hébreu dit, avec une négation, que comme une femme sur le point d'accoucher, nous souffrons les douleurs de l'accouchement. Nous, les prophètes, c'est au nom des prophètes qu'il parle, nous avons souffert aussi beaucoup, mais nous n'avons produit que du vent, une buée, enfin quelque chose de très léger. Nous n'avons pas apporté le salut sur la terre. Or, la Septante, pour une raison difficile à déterminer, puisqu'il s'agit de juifs traducteurs, n'ont pas traduit la négation et permettent de comprendre « Nous, les prophètes, nous avons souffert les douleurs de l'accouchement comme une femme qui accouche. Nous l'avons fait pour le bien-aimé. Nous l'avons fait et nous avons souffert et nous avons produit un pneuma soterias, un souffle de salut, et nous avons apporté le salut sur la terre. » C'est-à-dire la fonction prophétique, au lieu d'être niée, se trouve affirmée. Alors, bien sûr, les prophètes ont souvent nié leur travail, mais ils peuvent aussi, quelquefois, dire qu'ils prévoient ce qui arrive. Là, la Septante a donné un ton positif à ce qui était négatif en hébreu. Or, les pères de l'Église, la totalité des pères de l'Église, ont lu le texte sans la négation, d'une façon positive. Et j'avoue que j'en veux un peu à l'éditeur très savant et très érudit du texte grec de la Septante, dans la collection de la Septante qui paraît chez nos collègues allemands à Göttingen, le savant qui s'appelle Joseph Ziegler, qui est un très grand savant, et qui, de sa propre autorité, a voulu donner une Septante plus proche du texte hébreu et a publié, a édité la négation en supposant qu'il y avait eu une erreur de lecture des manuscrits grecs. Au lieu de « sous », qui veut dire « de toi », il y aurait eu « ou » la négation. Il a donc imprimé la négation. Contrairement à tous les manuscrits de la Septante, qui sont peut-être fautifs, effectivement, et contrairement surtout à la totalité des pères de l'Église qui n'ont lu que des textes sans la négation. Or, voilà un écart, un exemple tout à fait intéressant. D'abord, il faut se demander pourquoi ce changement. Or, il y a d'autres cas dans la Septante de ce que nous appelons des traductions converses, enfin contraires, qui sont quelquefois dues au fait que la négation n'est qu'une façon rhétorique de dire les choses, ou bien alors une volonté d'éclaircissement, ou une volonté de dire le contraire. Nous ne pouvons pas trancher, nous écrivons des articles là-dessus, sur ce problème en particulier, sans trancher. Donc voilà un écart qu'il est important de saluer comme quelque chose d'important et que les pères de l'Église ont pris en compte, enfin, puisque c'est eux, ils ont lu l'affirmation du rôle des prophètes pour répandre sur terre le souffle divin qui annonçait le salut. Donc, nous, en tant que patrologues, nous voyons bien que toute la théologie des pères de l'Église, leur religion, leur piété, leur conception de l'histoire du salut, passe parfois par des écarts de la Septante. Mais pas seulement, bien entendu. Alors, 99% de la Septante dit la même chose que l'hébreu. Les écarts sont quand même minimes.
Alors, vous avez déjà répondu presque à la question que j'allais vous poser. Est-ce que le rôle de la Septante contribue à l'élaboration d'une théologie particulière chez les pères de l'Église, ou en tout cas, sinon particulière, un approfondissement de la théologie fondée sur le texte de l'Ancien Testament tel que reçu par la Septante?
Oui, on pourrait prendre des exemples. Le premier qui vient à mon esprit, en écoutant votre question, ce serait peut-être le problème de l'Alliance. Pour en revenir aux prophètes, les prophètes montrent souvent le Seigneur en dispute avec son peuple pour dire « nous avons fait alliance, je t'ai éduqué, je t'ai nourri, je t'ai soutenu, et puis tu risques de me trahir, ne me trahis pas, sinon il y aura de terribles désastres qui arriveront ». Ces textes prophétiques, mais enfin on en trouve aussi dans le Deutéronome, dans le grand cantique de Moïse, qui mettent en garde théoriquement le peuple juif contre le gros défaut qui est l'ingratitude, la non-reconnaissance du pouvoir divin, les chrétiens se le sont appropriés dans les termes où la Septante l'exprime. Je regardais récemment l'ode que l'on appelle l'ode de la vigne, qui est dans Isaïe 5 et qui est un admirable chant d'amour de Dieu pour son peuple. J'ai planté la vigne, je t'ai soigné, je t'ai arrosé, j'ai fait un mur autour de toi pour te protéger, je t'ai entouré de tous les soins possibles, la rosée est venue te bénir, et puis toi, tu m'as, au lieu de me donner du bon vin, tu m'as donné des épines. Eh bien, les pères de l'Église, tout à fait fondée sur les affirmations répétées en grec de l'alliance du peuple et du peuple venu des nations, comme le dit souvent la Septante, et de l'alliance qui est entre eux-mêmes et le Seigneur, les chrétiens n'ont pas pris ce texte contre les Juifs. Ils n'ont pas cru que le cantique de la vigne, c'était un reproche fait aux Juifs spécialement, d'avoir été ingrats, ils le prennent pour eux-mêmes. Origène, dont je regardais le commentaire de ce cantique, dit « la vigne, c'est nous, c'est l'Église, c'est chacun de nous ». Et donc, il n'y a pas d'antisémitisme à ce moment-là, il y en aura ailleurs, il y en aura... Et donc, c'est une expérience que nous faisons d'une théologie de l'Alliance ou du monothéisme, bien entendu, et même de la christologie. Chaque fois que la Septante emploie le mot « logos », pour parler de la parole divine, ce mot étant donné qu'il a été repris par l'évangile de Jean pour parler de Jésus et du Christ, ce mot entraîne toute une christologie avec tous les textes qui contiennent ce mot et qui montrent la parole de Dieu s'adressant à l'homme. C'est un très riche sujet de théologie chrétienne, mais qui est centré, qui est issu de l'emploi de certains mots grecs qui désignent soit le Messie, soit la parole.
Nous allons bientôt terminer cette émission et juste une question très brève sur le travail que vous menez actuellement. Je sais que vous travaillez sur les odes.
Oui.
Si vous voulez en parler un peu.
Oui, je veux bien. Il y a un manuscrit de la Septante du 5e siècle de notre ère, probablement d'origine de Constantinople. Il s'appelle l'Alexandrinus, mais il n'est pas du tout d'Alexandrie, qui a la curiosité d'avoir introduit dans cette Septante, c'est une Septante complète, avec un Nouveau Testament, il faut dire, donc c'est une Bible chrétienne, il a pris comme psautier un psautier qui était accompagné d'un recueil d'odes de 14 textes pris dans les différents livres bibliques, depuis l'Exode, le Deutéronome, et les livres des rois, etc., pour montrer comment dans la liturgie, Déjà au 5e siècle, lorsqu'on lisait le psautier, on accompagnait la lecture des psaumes, la psalmodie, de textes qui étaient des lectures bibliques pour accompagner cette lecture du psautier. Ces 14 textes sont splendides. Chacun se rappelle que Moïse, au sortir de la mer Rouge, s'est mis à chanter un cantique de victoire. Cavaliers et chevaux, il les a engloutis. Les chars du Pharaon et sa force armée, il les a engloutis dans la mer. Les hommes triés pour la cavalerie d'élite, il les a submergés dans la mer Rouge, sous les flots, etc. Enfin, bref, une ode de victoire comme ça existe dans toute littérature splendide. Un très beau texte, et de même d'autres textes. Donc, ces textes sont réunis, là, dans un recueil. Et j'ai eu l'idée, il y a quelques années d'ailleurs, il y a longtemps, de les proposer à un public. Je ne sais pas encore quel public, mais je voudrais que ça soit un public très vaste, qui découvre les odes et prières de la liturgie grecque actuelle, fondée sur des textes juifs anciens de grande qualité.
Nous terminons cet hommage à Marguerite Arles en rappelant quelques livres essentiels, et tout d'abord bien sûr la Bible d'Alexandrie, collection commencée sous sa direction en 1986, qui compte à ce jour 21 volumes parus et plusieurs en préparation. Puis, ce qu'elle appelait son autobiographie intellectuelle, à savoir son ouvrage « La Bible en Sorbonne » ou « La revanche d'Erasme », paru en 2004 aux éditions du Cerf, où elle compte comment elle a inauguré, dès les années 60, un enseignement sur les écrivains grecs chrétiens, absent jusque-là des études classiques, en développant aussi une réflexion de première importance pour les débats sur la transmission de la Bible à travers ses traductions. Enfin, son dernier livre, « Voix de louange », paru aux éditions des Belles Lettres, auxquelles nous avions consacré deux émissions au moment de sa parution en 2014. C'était la Septante, l'Ancien Testament pour les Pères de l'Église, une rediffusion du 5 juillet 2009 en hommage à Marguerite Arles. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Nos remerciements à Sylvie Migaud et Olivier Leroux pour la réalisation de l'émission de 2009, ainsi qu'à Anne Pérez et Clément Daté pour l'émission d'aujourd'hui. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.